L'âge bête sur RCN.
Et oui, bien le bonjour, bienvenue sur RCN, il est 14h, bienvenue dans L'âge bête, votre émission de divertissement et de culture du début de mercredi après-midi. Alors oui, c'est les vacances, mais on est là quand même pour vous accompagner. Alors on fait un best-of, hein, voilà, on est tous partis en vacances quand même une semaine. Donc je vais vous proposer des chroniques de chacun des chroniqueurs, voilà, une petite sélection des meilleures chroniques de l'émission depuis janvier. On aura l'artiste musical de Name, qui nous parlera de Bob Glock. On aura la chronique de Clément, où il nous parlera histoire, où il reviendra sur Toutankhamon et notamment l'alimentation aussi des hommes préhistoriques. Bien sûr, le grand quiz de culture générale présenté par Justin. On aura également la chronique pop culture, où on parlera donc du jeu vidéo des 3 Become Human. Voilà, donc vous avez le programme. Soyez les bienvenus dans le Best of de l'âge bête. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Et comme le veut la tradition, eh bien on commence ce best of avec la chronique histoire de Clément.
Alors, je vous ai dit qu'on allait parler donc de Toutankhamon. Mais est-ce que vous savez quand est-ce qu'il a vécu, notre ami Toutankhamon?
Il y a fort longtemps.
J'aurais dit 4. Bah non, c'est avant Jésus-Christ. Non, c'est après.
C'est après.
Après 400... quoi?
Ah bon, JC.
Après JC. Après Jean-Claude.
Ah, non, c'est avant.
Ouais. C'est avant.
Déjà, c'est avant.
Une petite tête, c'est
en... très vieux.
En 1000 avant JC.
Encore avant.
En 2000 avant JC.
Non, quand même pas, n'abusons pas.
En 1500.
Un peu après. 1500.
1275.
Ouais. Un peu avant.
1375.
Bah, moins 1300, ça ira tout simplement.
1300. Ah,
d'accord.
Bah, c'est moins 1300 et des brouettes. Hein. Donc, Toutankhamon, c'est. Voilà, je vous ai dit qu'on allait le voir. Entre moins 1345 et moins 1327. Donc, d'ailleurs, il aurait vécu seulement 18 ans, donc ce qui est quand même assez jeune, hein, pour mourir, quand même.
Oui, on va pas se mentir. C'est un petit peu jeune, c'est comme si on mourait dans 3-4 mois pour certains ici.
Ça. Moi, j'étais déjà morte. Super.
Voilà, elle est sympa. Bah, voilà. Une autre anecdote, ses parents, ils sont frères et sœurs.
C'était... Oui, c'est logique à l'époque.
Ah oui, alors oui, c'est vrai, tu m'avais dit ça, c'est voilà. Particulier. Ouais.
Et lui, bah, il a épousé sa sœur pour changer de... C'est un peu une tradition familiale, j'ai l'impression.
Oui, c'est un circuit fermé.
Voilà, donc vous pensez bien qu'il y a des multiples malformations et des différents problèmes de santé dans sa famille quand même.
Non, hein. Sans blague.
Et c'est ça qui cause peut-être aussi les décès précoces.
Donc, peut-être.
Et donc, à sa mort, Toutankhamon, il est momifié et ensuite il repose donc dans la vallée des rois. Et donc on va parler de la malédiction qui a touché donc les premiers explorateurs de son tombeau. Donc en 1922, il y a une équipe de chercheurs, hein, dont par exemple Howard Carter ou encore Lord Carnarvon, qui donc trouve enfin le tombeau plein de fastes de ce pharaon. Ils ont ouvert le cercueil pour y trouver donc le défunt, hein, couvert de son masque en or pur. Je sais pas si ça vous parle, son masque en or pur de Toutankhamon.
Pas trop.
Ouais, non, c'était pas un gros pote à moi, donc je sais pas.
C'est pas celui qu'on voit souvent.
Bah si, c'est ça. C'est surtout ça, oui.
Ah. Oui, si.
Ah, okay.
Je crois savoir à quoi ça ressemble.
Et ensuite, donc l'accès aux journalistes, d'ailleurs, il a été aussi restreint parce que le Times, du coup, a obtenu l'exclusivité sur les découvertes et l'exclusivité sur l'accès au tombeau. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que d'autres médias vont commencer à parler de malédiction. Alors, The Daily Mail, par exemple. Tout ça à cause de l'irrespect, en fait, que ces journalistes, que ces archéologues ont fait preuve pour le défunt, en fait.
D'accord.
Très rapidement, donc, la malédiction, elle va devenir crédible aux yeux du monde entier. Tout d'abord, Carnarvon, qui a ouvert le tombeau, il décède en 1923 d'une septicémie, puis... Les années qui s'ensuivent vont voir beaucoup de personnes présentes et à l'excavation et leurs proches trouver la mort, en fait, ou alors ils vont se suicider. Et il va y avoir en chaîne plein de morts, plein de suicides, en fait, inexpliqués. D'accord. En réalité. Même si, en fait, scientifiquement, il y a quand même une explication, parce qu'en fait, tous ces décès, on peut les expliquer par les poussières, par les gaz toxiques qu'on peut retrouver, en fait, dans un tel tombeau, en fait, qui n'a jamais été ouvert, qui n'a pas été à l'air libre. Depuis deux millénaires quasiment, en fait. Hein.
C'est un peu ma chambre, mais en pire.
Si tu le dis. Et donc c'est ça, plus peut-être aussi le manque de soleil qui peut expliquer tout ça.
D'accord, voilà. Ok.
On va peut-être passer à la deuxième anecdote,
si vous voulez bien. On veut bien.
Et tout de suite, eh bien, est-ce que vous savez ce que mangeaient les hommes préhistoriques, donc il y a 40 000 ans à peu près?
C'est chasseurs-cueilleurs.
Ouais.
Bah, des petites baies.
D'accord. Alan?
Ouais, je sais pas, un peu tout ce qu'ils trouvent. Hein. Ils pouvaient pas trop faire fine bouche, j'imagine.
Mais la cueillette, c'est pas après, justement?
C'est
Naïm.
Non, je crois pas. C'est dès le début, donc ils mangent des fruits. Des
ouais, bah, mais ils mangent ce qu'ils peuvent, quoi.
Oui, voilà. Voilà, ok. Oui. Merci.
Naïm, une idée, peut-être, je sais pas.
Plus spécifique.
Ouais.
Je sais pas, des myrtilles.
Des myrtilles, d'accord. Bon, et ben on va voir ça. Donc les hommes préhistoriques, déjà, on va parler de la boisson. Ils buvaient de l'eau. Alors,
non.
Forcément, c'est quand même mieux de boire de l'eau pour vivre, quand même.
Oui, c'est, ça, c'est bien.
Mais il n'y a aucune preuve d'autres breuvages de plantes qui sont trempées dans de l'eau pour donner un goût à l'eau. Ou... Ça, il n'y a aucune preuve, en fait.
Okay.
Donc, pour l'instant, on ne peut que dire qu'ils buvaient de l'eau pour rester en vie. Au niveau de la nourriture, on va diviser ça en deux parties. Une, la viande, dont le poisson, et puis ensuite, les fruits et légumes. D'accord. Donc, c'est pas des grands pêcheurs, mais ils restaient quand même friands de saumon, par exemple, puisque c'est quand même un poisson qui est facile à attraper. Hein, il remonte la rivière, t'as juste à attendre sur le bord de la rivière.
D'accord.
Et tu le chopes. Ou encore, pour ceux bien qui vivaient près des mers, on pouvait manger des moules, des huîtres, des autres coquillages, hein, ou encore même des mammifères qui étaient échoués sur les plages.
Donc en fait, ils mangeaient déjà pas mal de viande.
Alors, oui. Ils mangent presque, enfin, énormément de viande en fait, mais on le verra après ça. Donc d'ailleurs, c'est pour la viande, c'est surtout des animaux comme les bisons, comme les rennes, comme les cerfs, les chevaux en fait. Et pour ceux qui vivaient d'ailleurs dans des zones plus tempérées, en Europe centrale d'ailleurs, ils chassaient aussi le mammouth. Donc ça, on peut penser que c'est un peu compliqué de chasser un mammouth, mais pourtant ça a été fait dans l'histoire.
C'est plutôt motivant et il y a du stock quand même.
Oui, et,
oui,
en, fait, et en fait, l'homme préhistorique, c'est un grand chasseur. Il a besoin de beaucoup de protéines quand même pour toutes ses activités quotidiennes. Et rien que la chasse, ça va demander beaucoup
oui,
de protéines
vrai,
animales
oui.
En fait. C'est, on n'est pas assis sur une chaise devant un ordinateur.
Ah bah c'est sûr que comparé à notre mode de vie actuel.
Là, il est tout le temps en train de bouger. Il fait les champs déjà, il commence à s'installer. Il faut de l'énergie. Et en plus. Il avait quand même des outils qui étaient quand même assez rudimentaires, de ce qui va renforcer cet aspect énergétique en fait. Hein. Quand tu lances une sagaie, t'es pas sûr qu'elle atteigne, donc faut s'y reprendre à plusieurs reprises, faut courir après les bestioles, c'est un peu compliqué.
Oui.
On et d'ailleurs,
expérience là, on a le.
Ouais, c'est ça, t'as vu un peu. Et d'ailleurs, il chassait pas beaucoup d'oiseaux non plus parce que c'est compliqué à attraper tout simplement.
Oui. Hein ça
lancer une sagaie en l'air pour attraper l'oiseau, c'est un peu compliqué.
C'est vrai.
Et enfin, on va finir avec les fruits et légumes. Rayon fruits et légumes de
parfait.
Chez Grand Frais.
Oui, là, je pense qu'on aura fait tout le tour du magasin. Là.
Donc, il s'agissait principalement de champignons, de baies sauvages, on revient aux myrtilles Naïm.
Ah bah voilà.
Ou même encore de rhizomes.
Qu'est-ce que c'est que le rhizome ?
Bah, c'est des racines, c'est des trucs comme ça, d'un peu de toutes sortes. Et d'ailleurs, notamment des rhizomes de nénuphars. Ils mangeaient, on a retrouvé des traces.
Mais ça se mange encore, je crois.
Ouais, c'est ça. Et donc, il y avait aussi les graminées qui étaient mangées, avis aux amateurs. Nos amis allergiques au pollen, ils doivent aimer ça.
C'est vrai.
Et les graminées, donc, c'est un peu l'ancêtre des céréales quand même. Avec ces graminées, donc, soit on les mange comme ça, soit on les mange en bouillie ou en galette.
D'accord.
Alors, c'est un peu l'ancêtre du pain, par exemple. Donc, en fait, ce qu'ils mangeaient, c'était... Et à la fois cru, mais à la fois cuit aussi, en fait. C'était pas que du cru, que du cuit, en fait, puisqu'on avait déjà accès au feu et les compétences.
RCN, l'âge bête.
Place à la musique, désormais dans le best-of de l'âge bête, où Naïm nous présente l'artiste musical Bob Glock.
Et oui, je vais vous présenter Bob Glock, donc il est aussi parfois appelé Wasting Sheet ou encore FDO38, mais bon, c'est un peu plus long et plus compliqué. Donc je vais appeler Bob Glock. Il a commencé à poster ses premiers morceaux sur Spotify et SoundCloud en 2020, à l'âge de 21 ans. Et donc assez vite, il a commencé à se faire repérer un peu dans la communauté hyperpop. Bon, ceci dit, en 2021, la communauté hyperpop, c'est 3 ou 4 personnes, donc
oui,
ça reste assez confidentiel.
Oui,
oui. C'est vers la fin de 2021 qu'il a commencé à connaître des petits succès, notamment avec des morceaux à la prod très minimale et aux paroles assez nostalgiques et sombres. Donc, comme notamment le morceau Crush, qui parle pas d'un crush dans le sens de l'amour, mais de drogue. Et donc, on va écouter un extrait tout de suite. Bon, vous l'avez remarqué, c'est pas très joyeux.
Oui.
C'est une des particularités de Bob Glock, c'est que ses tests abordent des sujets assez sombres comme la drogue, la dépression ou encore la pauvreté. Donc une autre de ses particularités, c'est sa polyvalence, parce que non seulement il rappe, mais il produit lui-même la majorité de ses morceaux. Il a un style de production assez particulier qu'on ne veut pas vraiment imiter, ni assimiler à un autre genre musical en particulier. C'est un peu un mélange de tout, donc du rap, de l'électro, du rock, etc. Et donc le tout avec une touche très expérimentale et complètement originale, donc notamment au niveau des percussions. Donc pour l'illustrer, on peut écouter un extrait justement d'une de ses instrus plus récentes. Bon, vous pouvez le constater, c'est quand même très particulier, aussi bien au niveau des percussions qui sont assez uniques, mais aussi au niveau des mélodies, où il sample un peu tout et n'importe quoi. Donc en l'occurrence, notamment, il y a le bruit d'un casque qui s'allume, c'est quand même assez étonnant. Il utilise parfois des instruments un peu mystérieux. Depuis 2023, il sort des projets un peu plus aboutis que les premiers, notamment l'EP Glock ou encore le mini-album Mercurial, en collaboration avec le producteur Abel 31, dont j'avais déjà parlé
il y a longtemps. Oui, c'est vrai, ah oui, il y a longtemps, l'an dernier.
Et donc, on peut écouter hier un extrait d'un morceau de ce projet, qui est sorti assez récemment.
Ma gueule, j'ai lâché le volant pour passer toute ma vie devant Eiffel, ma gueule. J'suis dans la barre, j'parle à des morts. J'parle sur mon camion, ma gueule. Cette année, j'remplis mes salles. J'prenne ma guerre, s'il faut que j'arrache des torts. J'suis tout seul dans la
gueule. Donc, encore une fois, c'est vraiment très particulier. On peut pas vraiment assimiler à un genre musical en particulier. Bon, bah, ouais. Vous connaissez la rengaine, hein. On sait pas trop ce que c'est. On met ça dans hyper pop et puis voilà, basta. Et donc, pour illustrer tout ce que je viens de dire, on va écouter un morceau, le morceau Red Hot, donc qui est évidemment inspiré du légendaire groupe de rock, les Red Hot Chili Peppers, et qui est extrait de son EP Glock sorti en 2023.
Allez, on s'écoute ça, puis dans un instant, on fera le quiz de culture générale avec Elsa, c'est la suite du programme de l'émission de la Jbet. Merci de nous écouter.
J'entends pas tes paroles, tes paroles. J'parlais à mon dossier, j'étais à Noisy, t'as laissé notre rapport. J'avais promis, j'suis pas tenu à carreau. J'entends pas tes paroles, tes paroles. J'parlais ça mon dossier. J'étais à Noisy, dalle, les fenêtres à barreaux. J'avais promis, je me suis pas tenu à carreau. Toi mal le gueule, vite moi je vais m'égarer. Confiance en R, je veux pas qu'on me protège. Pourquoi plus j'approche de mes objectifs? Je m'enfonce dans la mer, même si j'étais ton beau-père. Mal le gueule, c'est bizarre. Pourquoi je vis dans leur viseur? J'suis pas ta raison, je fléchette dans mon dos. Maintenant j'ai plein de trous dans mon t-shirt. Depuis j'écris pas pour toi ni pour cela va. C'est juste que des fois faut que je me vide. J'suis sur le toit, j'quête le vide. J'vais laisser ma place à des fils de. Mal le gueule, c'est Bobby. Réel depuis l'époque où dans leurs yeux je voyais bien. Qui pensait que j'étais un phony. Des années après je suis resté fidèle à qui j'étais. Je suis pas devenu un produit. Tous les deux ans ils ont changé leur peau de skinwalker. Vite c'est que j'ai la clé comme dans Kingdom Hearts. Faut pas la passer à ses commis. Va te faire baiser par tes potes mal le gueule. Cette année j'tombe les portes mal le gueule. J'suis sur les quais d'Ivry. J'parlerai ni au tien ni au cop. J'écoute pas de K-pop. J'écoute du K-pop mal le gueule. J'pense à mon daron malheureux. J'suis devant l'ordi tout seul. Bob Glock j'suis les 5 rédottes mal le gueule.
Sur RCN.
Merci d'écouter RCN en ce début d'après-midi, vous êtes bien dans l'âge bête. C'est les vacances, mais on est là, on vous propose un best-of des meilleures chroniques. Et puis pour l'heure, comme d'habitude, c'est l'heure de faire le grand quiz de culture générale présenté par Justin.
RCN, l'âge bête.
Bon, on va rester sur du jeu vidéo, comme l'aimait bien Alan. Et je vais vous demander quels sont les trois jeux vidéo les plus vendus de tous les temps.
Alors Minecraft.
Exactement.
Bah, les autres, je sais pas.
Ah, moi je comptais sur toi.
Hein. Il y en a un plutôt récent,
ah ouais,
qui a une dizaine d'années, et un qui est très vieux, soviétique.
Quoi? Quoi? Soviétique, hein? Bah, j'ai pas compris là.
GTA V.
Ah, ah bon, oh, bah, je sais pas, j'ai jamais joué. Ah ouais, GTA V dans le top 3.
Ouais, avec 100 et quelques millions d'exemplaires vendus.
Ah oui, quand même.
Ah oui.
Et Tetris.
Ah,
Tetris, hein.
J'ai
Tetris.
Vu un petit là, 13 ans, je crois, qui a abattu.
Oui, qui allait trop loin et que du coup, le jeu n'était pas fait pour aller si loin et du coup, il n'y avait plus de place dans la mémoire, ça a planté. C'était connu que c'était possible, mais ça a été réalisé par un humain pour la première fois il n'y a pas longtemps. Ouais.
Pourtant, le jeu n'est pas récent. Enfin, je veux
dire, bah non. Non, mais
je pense qu'il y a plusieurs.
C'est incroyablement dur d'aller là-bas. Enfin, les développeurs, ils se sont dit, personne va aller aussi loin. On va pas coder un truc qui fait, enfin qui permet d'aller aussi loin.
Mais en plus, je pense qu'il y en a plein qui ont essayé.
Ah bah oui, ça doit pas être récent comme.
Oui, bah avec une technique qui permet de taper plus vite.
Ouais, il y a des trucs de fou. Hein,
mais c'est impressionnant.
Ouais. Bah, pour taper très vite, en fait, ils mettent leur doigt sur le bouton, ils le bougent pas, et ils tapotent très vite le bas de la manette, enfin le derrière de la manette. Pour que ça fasse très vite les
appuis. Oh là là.
C'est un délire. Hein,
à ce niveau-là, c'est du sport de haut niveau.
Ah oui, c'est incroyable.
C'est impressionnant.
Une deuxième question.
Combien de films a réalisé Quentin Tarantino ?
C'est qui ?
Tarantino. C'est
je passe.
Non mais ça me dit quelque chose, mais il a fait quoi ?
Le réalisateur de Pulp Fiction, Django,
Once Upon
a Time in Hollywood.
Putain, j'ai rien vu de tout ça. J'en sais rien. J'ai aucune idée.
Je crois que j'ai vu Pulp Fiction.
Ouais.
Mais ça doit faire.
Je sais pas, moi j'aurais dit une petite dizaine, non ?
Bah, il en a fait 9 et
Ouais, bah oui hein Martin.
Il a dit dans sa carrière qu'il ne ferait que 10 films, son dernier film est donc attendu et
donc ouais, il en fera un dernier du coup.
Ouais.
D'accord.
Et tous ses films sont connus pour être des chefs-d'œuvre.
D'accord.
On retrouve pas mal de films avec des grands acteurs Brad Pitt.
Ouais, j'ai un con encore une fois hein.
DiCaprio et plein d'autres
Ok, une prochaine question.
Je vais vous demander, quelle est la capitale de la Gambie ?
Oh. Oh là là, ça commence par quelle lettre ?
Ça commence par un B.
Alors, elle est très très forte, Otili, là-dessus, parce que la dernière fois qu'on lui a dit, ça fait 3 fois qu'on lui dit que ça commence par un B, elle avait trouvé Beyoncé.
Mais c'est vrai.
Non, mais c'est que j'hésitais, je voulais pas me ridiculiser, c'est pour ça que je te demandais la première lettre.
Oh bah là, j'en sais rien.
Alors, vas-y, du coup, maintenant que tu as la première lettre.
J'ai pas entendu.
C'est un B encore, je crois.
C'est un B.
C'est encore un
B.
La capitale de la Gambie. C'est où déjà la Gambie ? C'est en Afrique, non ?
Oui. C'est au milieu, c'est à l'est, ouest.
C'est quelque part en Afrique.
D'accord.
C'est dans la corne, de mémoire.
Non, je sais pas. J'en connais quelques-unes des capitales, mais alors là.
La capitale, c'est sans aucun jugement musical, c'est Banjul.
Ah
mais ça me dit rien du tout.
J'ai choisi exactement pour ça, et parce que normalement, il devait y avoir Clément qui était fort en géographie.
Ah, dommage, bah oui, forcément.
Ouais, c'est pas
la bonne
équipe,
bah voilà, oui, il doit se mordre les doigts chez lui en train de se dire
m'étonnes.
J'aurais pu répondre. Bah, c'est
il
trop
nous
tard.
Une capitale par émission, je crois. Hein.
Voilà. Ce sera la semaine prochaine, Clément, ce sera avec Elsa. Voilà. Question suivante.
Je vais vous demander par rapport aux Simpsons. Vous savez combien de villes s'appellent Springfield aux États-Unis ?
Alors, déjà, moi, je pensais pas qu'il y en avait plusieurs.
Quatre ?
Ouais, je dis à la dizaine près.
À la dizaine près
hein. Il y en a genre 1000 ou une connerie comme ça ? Non, c'est
bah,
pas possible.
Non, pas
Springfield.
Pas 1000.
33.
Oh, voyons.
Moi, je dis 40.
Et il y en a une trentaine.
Ah,
et c'est le nom de ville qui est le plus donné aux États-Unis. Et donc, c'est pour ça que les Simpsons, voulant représenter la famille américaine moyenne, ils ont pris le nom.
C'est
un des noms les plus populaires de
ville. On a beaucoup de. Bah, tu dois pas savoir, t'as pas fait de recherche là-dessus, mais duplicata comme ça en France.
Bah, je pense. Alors, non, je pense pas autant.
Non,
par
non,
contre,
non.
Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de villes, tu sais, composées avec. Je pense à ça, Villers, il y en a plein. Il y a Villers,
ah, oui, bah,
il y a Villers, machin.
Ouais,
y a,
c'est vrai qu'il y a
Villers, Cotterêts.
Bouxières, à vous de voir.
Oui, aussi.
Trois déjà, pas loin.
On peut voir dans l'est de la France les cours. Et généralement, c'est des villages qui sont très anciens, donc c'est des noms qui restent depuis longtemps, alors que les États-Unis, c'est très récent quand même, par rapport à l'histoire. Et du coup,
c'est vrai.
Noms, ouais, mais ils n'ont pas trouvé d'autre chose. Springfield.
Ils ne sont pas très originaux.
Et on va reconstruire une ville. On l'appelle comment ? Springfield.
Exactement.
Le chant du printemps.
Ouais, c'est vrai.
Et plus local. Vous savez comment on faillit s'appeler les Mussy-Pontins ?
Ah, parce que nous on vient de Pont-à-Mousson, on enregistre cette émission derrière depuis.
Attends, c'est quoi la question ?
Je sais que je l'ai vu un moment dans ma vie.
Comment ? Les Mussy-Pontins ont failli avoir un autre nom.
Ah, oh bah je sais pas.
Les habitants de Pont-à-Mousson.
Une rive voulait appeler Mussy-Pontins, l'autre rive voulait les appeler les.
Alors attendez, qu'est-ce que ça peut être ?
J'en sais rien.
Déjà, comment on appelle les habitants de Mousson ? Parce que c'est le village qui est au-dessus.
J'en sais rien.
Mussy, par déduction. C'est Mousson, enfin c'est Pont-à-Mousson sans le pont.
Les Mousseux.
Ah non, je sais même pas. C'est peut-être les Moussonnais, les Moussonnois, les Moussoniens.
L'autre, la rive d'en face voulait appeler Pont-à-Mousson, enfin les habitants de Pont-à-Mousson, les Poussy-Montins.
Poussy-Montins.
Ils ont pris le.
Ok.
C'est exactement l'inverse. Et j'ai trouvé ça assez drôle.
C'est vrai, ils ont pris Pont d'abord, ensuite Mousson, mais là, c'est Mussy d'abord.
Ouais, je préfère.
Oui, ça sonne mieux.
Parce que ça doit venir du latin ou d'un faux latin, je sais pas, mais Mussy Pontin, ça fait Mussy, c'est genre l'adjectif.
Pas
on
ça,
dirait
après,
en tout cas.
Pas.
Alors que Poussy Montin, c'est.
Ça vient peut-être tout simplement de Pont à Mousson. Hein.
Ouais, après, je mais je préfère Mussy Pontin. Hein.
Oui, bah oui. Voilà.
C'est sûr qu'avec notre vision actuelle, ça peut faire un peu bizarre, mais.
Ouais.
Oui, c'est sûr, on est habitué. Une autre question
La musique.
Ah oui, la fameuse bande originale. Et oui. Bah là, c'est. Oui, en quelque sorte, ça peut être apparenté à un blind test au final.
Bah oui. Hein.
Il faut trouver de quel film ça vient.
Ça, c'est Moustique Knight. Ça
pourrait.
Attends, c'était. C'est tout ? Ah non, ok.
Ah
oh, c'est très connu.
Oh, je sais pas. Oui. C'est le truc, ils utilisent ça dans les 12 coups de midi quand il y a un duel.
Effectivement.
Un vieux qui regarde encore ça.
Ouais, voilà.
C'est un truc avec des cow-boys, non ?
Ah bah ouais.
Oui, c'est non, vrai que ça fait très western.
C'est un western, effectivement.
Ah, moi, je connais pas ça.
Ouais, non, c'est sérieux. Hein.
Bah, j'en ai vu quelques-uns, mais j'avoue que là.
C'est dans une série de. Enfin, pas une série, mais il y a eu plusieurs films de ça.
C'était dans le film Il était une fois dans l'Ouest.
Ah oui, c'est connu ça.
Il était une fois dans l'Ouest.
Connu,
D'accord. C'est vrai que c'est très particulier.
Du coup, je le connais des 12 coups de midi. Hein, vraiment. Pour moi, ça, c'est le jingle.
C'est vrai que c'est vraiment une musique très particulière. Hein.
Ouais.
Je sais même pas comment ils ont. Je sais même pas c'est quel instrument au final.
C'est l'harmonica, non ?
C'est qui l'a réalisé la musique là ?
Je n'ai aucune idée.
Je ne sais pas du tout.
RCN, l'âge bête.
Après ce grand quiz de culture générale, on parlera pop culture et jeux vidéo avec Jasmine, qui nous présentera le jeu vidéo Detroit Become Human. C'est une chronique du mois de janvier, donc on l'a dans 3 minutes, juste après un titre. Merci d'écouter L'Âge Bête, merci d'écouter RCN, nous sommes ensemble jusqu'à 14h30. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight will make bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. We love to make bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we make bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. We love to make bad memories. One more drink, she said.
Bête sur RCN.
Vous êtes bien dans le best-of de l'âge bête des vacances d'hiver et désormais pour terminer cette émission et ce best-of, je vous propose de réécouter la chronique de Jasmine, la chronique pop culture où elle nous parlait jeux vidéo et donc du jeu vidéo Detroit Become Human.
RCN, l'âge bête.
Alors, ça s'appelle Detroit Become Human. Detroit comme la ville Detroit.
De Detroit. Ouais. Ouais. Jusque-là, ça va.
Dans quel état ? Petit quiz. C'est dans le Michigan.
Dans le Michigan.
Le Michigan. Bien sûr.
Je suis extrêmement mauvais en géographie.
Surtout les États des États-Unis. C'est
compliqué. Oui, c'est.
Alors, pour bien commencer ma petite explication, je vais vous faire un résumé du jeu. Donc, dans ce jeu, on est en 2038, dans la ville de Détroit, du coup, dans le Michigan. Et on est dans un endroit où les IA sont au service des êtres humains et partagent leur vie quotidienne. Donc, ils sont partout. C'est le futur, voilà, c'est fou.
Ouais, d'accord. Future.
Toutes les tâches ingrates sont remises à quelqu'un d'autre que nous, c'est fantastique.
Il y a beaucoup des films comme ça aussi qui se projettent avec...
Tout à fait. Ouais. Bah, c'est de la science-fiction, c'est pas un genre tout à fait nouveau, mais voilà. Donc dans ce jeu, on rencontre trois protagonistes, donc tous des IA, qu'on joue tous les trois. Le système est assez intéressant puisqu'on n'est pas toujours le même personnage.
Ouais, c'est bien, ça.
Donc on a Kara qui est au service d'un homme qui s'appelle Todd, qui est un drogué, un alcoolique et qui est violent envers sa fille Alice.
Ah, il cumule, super, hein. Ouais, c'est vrai que lui il cumule.
Ensuite, on apprend et on fait la connaissance de Connor, qui est un prototype d'IA, qui est négociateur et enquêteur au sein de la police. Fantastique.
Ouais.
Et qui est en binôme avec un être humain qui s'appelle Hank. Et ils enquêtent sur les déviants. J'expliquerai ce que c'est après. Ouais. Pas de panique. Et en dernier, on retrouve Marcus, qui est au service d'un peintre de renom qui s'appelle Carl, mais qui est en fin de vie et dont le fils est toxicomane. Un de plus. C'est vraiment fantastique. Donc, les déviants, c'est des androïdes, donc les IA d'intérieur, qui ont brisé une barrière, ils appellent ça comme ça dans le jeu, et qui en fait connaissent plus ou moins une naissance de conscience en eux.
Ah oui, et ça c'est vrai que c'est souvent représenté.
Oui,
ça,
dans les univers dystopiques, c'est pas hyper original. Mais donc voilà, ils connaissent des émotions, etc. Et ça leur permet de prendre le contrôle sur leurs actions où auparavant ils étaient sous le contrôle de leur maître.
Et là ça part en n'importe quoi souvent.
Tout à fait. Et donc au cours de l'histoire, Connor essaye de traquer les déviants. Tandis que Kara, qui est un déviant, je vous le dis, et Marcus également, me semble-t-il, chacun se poursuit un petit peu, entre guillemets, et au cours de l'histoire, ça nous pousse à faire des choix et des dilemmes pour chacune des IA. Pardon. Mmh. Donc, en fonction des choix qu'on a fait précédemment, toute l'histoire est impactée pour presque chaque choix, pardon, parce qu'il y en a qui sont conditionnés d'avance dans le jeu pour que la trame avance, tout simplement. Mmh. Mais du coup, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est la multiplicité des chemins possibles et des fins possibles.
Oui, c'est ça.
Des
puis le fait
possibles.
Que tu puisses changer de personnage aussi, ça
oui,
rajoute
ça,
encore
ça
plus
rajoute,
de possibilités.
Bah, ça a une dimension de fou parce que tu as l'histoire de trois points de vue. Et du coup, c'est super intéressant, ouais, c'est je trouve. Et donc, je vais vous parler aussi de la provenance pardon, de ce jeu, qui est un jeu franco-canadien par un studio donc, qui est basé à Paris et à Montréal, qui s'appelle Quantic Dream. Donc ils nous ont offert ce super jeu. Franchement, si vous pouvez y jouer, si vous avez...
Il est récent ?
Non, pas trop. Je vais te le dire après.
D'accord, ok.
Il a été annoncé en 2013 comme leur premier jeu sur la PS4. Donc on est déjà à la PS5, on a pas mal avancé entre-temps. Et il est sorti en 2017.
D'accord.
Donc ça fait quand même un moment, ça fait 7 ans.
Ouais, maintenant, quasiment.
C'est pas mal. Mais il est cross-platform maintenant, donc il est sur PC, sur PS4, il doit être sur Xbox.
Ouais, tu peux jouer sur beaucoup maintenant.
Ouais, il est sur beaucoup de plateformes. Et donc, il a vu le jour après avoir été développé à Paris pendant 4 ans. Et petit fait intéressant, les équipes qui ont produit les décors ont reproduit les décors même de la ville de Détroit en se déplaçant directement dans la ville aux États-Unis.
C'est-à-dire que vraiment tout le jeu se passe à Détroit dans la ville ?
Tout se passe à Détroit, ouais.
Et donc, une grande partie de la ville est représentée
Oui, dans les décors, et ils ont été dessinés à partir de la vision même de la vraie ville.
Ah, c'est intéressant, ça.
Ouais, c'est sympa, comme tout. Et les musiques sont sympas aussi.
D'accord.
Voilà.
Et bah, à la limite, à l'occasion, tu pourras nous faire écouter 2-3 extraits. On verra comment
avec
on peut faire
si
ça.
Avec joie, si j'ai l'occasion de faire un petit blind test.
Ah, bah pourquoi pas. On est toujours
on est toujours partant pour des blind tests.
RCN, l'âge bête.
Voilà, c'est la fin déjà de ce best-of de l'âge bête. Nous aurons plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe mercredi prochain à 14h. Passez un très très bel après-midi sur RCN. Salut !